Europe 1 Sport, Virginie Fulpin, Jacques Vendroux.
Et c'est notre entretien avec les décideurs du sport. Bonsoir Jacques Vendroux.
Bonsoir.
D'abord. Alors on a eu Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui a été notre première invitée. Brigitte Henriques, la présidente du CNOSF, le Comité Olympique Français, qui sera là dans quelques jours. Et ce soir, c'est la directrice générale du Stade de France, Alexandra Boutelier, qui est avec nous. Bonsoir Alexandra Boutelier.
Bonsoir.
Alors, vous avez vu, j'ai dit trois noms de femmes, trois femmes pour nos trois premières interviews avec les décideurs du sport. On dirait que les temps changent. C'est un sujet important pour vous, la place accordée aux femmes dans les instances dirigeantes du sport français ?
Oui, bien sûr, la visibilité féminine est une visibilité importante. Il faut simplement aussi qu'elle soit à la hauteur de la place qu'on lui accorde. Et donc, en ce qui me concerne, mais je connais un peu les deux autres noms que vous avez indiqués, chacune s'attache à être au niveau des espérances qui sont placées en elle.
Alors, à l'heure où on se parle, chère Alexandra Boutelier, l'actualité la plus brûlante du Stade de France, c'est que les derniers billets de la Coupe du Monde de rugby viennent d'être vendus. À 18h, c'était la dernière phase de vente pour le grand public. La Coupe du Monde de rugby, c'est dans un an. Le Stade de France en sera une des clés pour la réussite. Comment vous préparez cet événement qui est encore là un événement hors norme, un événement pratiquement planétaire ?
Alors, merci Jacques d'en parler, parce que c'est vrai que les Jeux olympiques et paralympiques catalysent l'attention des uns des autres et qu'on oublie un tout petit peu que quelques mois avant, va se dérouler une Coupe du Monde de rugby. Alors en fonction des classements, c'est le 3e, 4e, 5e événement mondial. C'est pas rien. Et nous aurons l'honneur d'accueillir au Stade de France 10 matchs sur les 48 que constitue la compétition. 10 matchs, le match d'ouverture, ce fameux France-Nouvelle-Zélande qui nous fait tous languir. 3 autres matchs de poule, 2 quarts de finale, les 2 demi-finales, la finale, la petite finale. Et on est, de manière évidente, très impatient, très honoré de la confiance qui nous a été faite par le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Et nous nous préparons pour recevoir notre deuxième Coupe du Monde de rugby après la première qui est intervenue en 2007 avec toutes les espérances sportives que chacun sait.
Le Stade de France, c'est un peu la maison du football, quelque part. Le lieu où l'équipe de France a été sacrée championne du monde, c'était en 98. Est-ce que ce Stade de France peut devenir aussi la maison du rugby ? Le stade du rugby ?
Pour tout vous dire, nous considérons que le Stade de France, c'est la maison des équipes de France de football et de rugby. Ce stade a un destin absolument inouï. Il est né, il a été baptisé champion du monde de football. Et évidemment, on regarde son histoire à travers ce spectre. Je souhaite profondément à notre 15 de France de pouvoir l'année prochaine inscrire son nom au palmarès de la Coupe du Monde de rugby. Et cela équilibrera les deux jambes qui nous sont nécessaires, nous en tant que gestionnaires de cette enceinte, pour qu'elle fonctionne.
Alexandra Boutelier, la directrice générale du Stade de France en direct sur Europe 1. Alors, au mois de mai, il y a eu la finale de la Ligue des Champions au Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool. Il y a eu de graves problèmes d'organisation, des mouvements de foule, des supporters qui ne pouvaient pas rentrer, des scènes de vol, de violence aux abords du stade. Quelle est votre analyse ? C'est la première fois que vous parlez de ce sujet.
Oui, en direct et à la radio.
C'est de manière évidente un souvenir extrêmement douloureux. Pour tout vous dire, moi, il n'y a pas un jour depuis le 28 mai 2022 où je ne me réveille pas sans me demander ce que nous aurions pu faire de mieux. C'est d'autant plus douloureux que le Stade de France a été inauguré en 98, que depuis nous avons accueilli 557 grands événements, plus de 36 millions de spectateurs, que nous sommes passés par toutes les compétitions mondiales, européennes, internationales qu'on peut imaginer en football, en rugby, en athlétisme, et que globalement les choses se sont plutôt bien passé, en ce compris une sombre soirée du 13 novembre 2015, dans lesquelles quand même nous avons les uns les autres dû réagir à une tentative d'attaque terroriste et faire sortir dans des conditions aussi bonnes que possible 80 000 personnes qui étaient venues pour assister à un match de football. Écoutez, c'est une blessure évidemment intense. La tentation serait grande, et ce ne sera pas la mienne, d'aller désigner des coupables. Moi, ce que je sais, et ça fait à peu près maintenant 10 ans que je dirige le consortium Stade de France, c'est que pour gérer une infrastructure de cette taille, qui n'a pas d'équivalent en France, hein, le deuxième stade accueille 25 à 30% de moins de spectateurs par événement. Il faut une coordination entre les organisateurs des événements, que sont les fédérations sportives pour les matchs de football ou de rugby, que sont la préfecture de police et la préfecture de Seine-Saint-Denis. Et je tiens ici à rappeler que pendant 23 ans, aujourd'hui, la coopération entre les uns et les autres a été absolument exceptionnelle. Je rappelle que ce soir de 2015, ce sont bien des équipes du Stade de France et de la préfecture de police qui sont allées vérifier ce à quoi correspondait les explosions que nous avions entendues et qui ont vu des scènes absolument désastreuses. Voilà, il y a eu le 22 mai. Moi, je peux vous donner ma compréhension de cette soirée qui correspond en fait à un processus qui s'enclenche. Vous savez, les mauvaises nouvelles dans nos métiers, qui sont des métiers de gestion des flux, hein, ce sont des processus continus de problèmes qui s'ajoutent les uns aux autres et qui, à un moment, deviennent incontrôlables. C'est de mon point de vue ce qui s'est passé ce soir-là. Rapidement, il y a trois moyens en transport en commun de venir au Stade de France. Il y a deux RER, un RERB, un RERD et une ligne de métro, essentiellement le métro 13.
Et il y avait des grèves ce jour-là.
Bon, le premier sujet de cette soirée, c'est qu'effectivement, chacun apprend dans la semaine que, en l'occurrence, la RATP, qui gère une partie de la ligne du RERB, se met en grève. Une partie des personnels se met en grève. Le RERB, c'est, en fonction des événements, entre 22 000 et 30 000 personnes qui arrivent au stade, avec un cheminement qui est extrêmement large. Vous avez la ligne D par laquelle arrivent normalement 6 à 8 000 personnes. Et puis, vous avez sur la ligne 13 entre 15 et 25 000 personnes. Bon. 25 à 30 000 personnes attendues sur le B, 6 à 8 000 attendues sur le D. Il apparaît le 22, pourtant, que le mouvement de grève de la RATP ne perturbe pas tant que cela le trafic de la ligne B et que l'organisation mise en place qui doit accueillir les flux comme ils arrivent traditionnellement au Stade de France depuis 24 ans, c'est quand même pas rien. Des messages sont passés en gare pour indiquer que le RERB est en grève et qu'il faut déporter, qu'il faut se déporter sur le RERD. Rapidement, ça veut dire qu'au lieu de 6 à 8 000 personnes attendues sur le RERD, en arrive 36 000. Et n'en arrive que 8 000 sur le RER B. En fait, le premier sujet, c'est le basculement de ces flux, avec un message qui n'avait en pratique aucun fondement matériel ce soir-là. Et donc, vous avez un dispositif qui voit arriver des flux humains et qui n'est pas calibré pour gérer les flux tels qu'ils sont organisés ce soir-là et qui sont uniques.
Mais ça, on le savait avant, puisque dans la semaine, on savait que les flux ne seraient pas les mêmes, puisqu'on avait appris...
Non, puisque les anticipations laissaient penser la réalité du trafic sur la ligne B, c'est 80% du trafic ce soir-là. Il n'y avait aucune raison pour qu'il y ait une bascule des flux entre le RB et le RERD. Je le rappelle, cette bascule, elle est due à des messages qui sont passés en gare et qui s'avèrent a posteriori, inexact. En plus, on s'adresse à une population qui n'a pas l'habitude de venir au stade et qui, pour la plupart, ne maîtrise pas le français. hein, ce qui rajoute évidemment une difficulté supplémentaire. Donc vous avez un dispositif qui voit des flux totalement déséquilibrés sur les accès traditionnels du stade. Deuxième élément, ce dispositif n'arrive pas à se redéployer pour s'adapter à la réalité des flux qui arrivent. Et donc vous vous retrouvez avec des dizaines de milliers de personnes engorgées par un accès qui est trop étroit en pratique pour qu'il passe. Et là, vous avez un dispositif qui saute. Il n'est pas fait pour ça. Et une fois que cette phase-là est passée, la phase du préfiltrage est enfoncée, eh ben, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le malheur amène le malheur, hein ? Le désordre amène le désordre. On a beaucoup parlé des bandes qui ont agressé un certain nombre de supporters. Moi, je vais vous dire, en 9 ans et demi, je ne les avais jamais vus. Voilà. Mon expérience personnelle, c'est que je ne les avais jamais vues. Elles étaient là ce soir. Mon explication, c'est que c'était une présence purement opportuniste. Le désordre appelle le désordre.
Alors, ce qui est important, je rappelle que nous sommes en direct avec vous, Alexandra Boutelier, directrice générale du Stade de France, en direct sur Europe 1. C'est la première fois que vous parlez avec autant de cœur de cette histoire. Alors, l'inévitable question, est-ce que la France et le Stade de France pourront-ils à nouveau, un jour, organiser une finale des Ligues des Champions ? Je sais que vous avez rencontré ces dernières heures les dirigeants de l'UEFA.
Alors, en tout cas, les membres de la commission d'enquête que l'UEFA a saisi d'une enquête indépendante, d'une demande indépendante. Et effectivement, je l'ai... Alors, quant à ma croyance, à ma réponse à votre question, est-ce que la France, est-ce que le Stade de France sont capables d'accueillir ? Oui, trois fois oui. Je vous le dis d'abord parce que je le crois, je vous le dis ensuite parce que je le souhaite. Il va falloir à un moment que nous trouvions un moyen de démontrer, de redémontrer que nous savons accueillir cet événement. Le meilleur moyen de le faire, c'est de le réaccueillir. Tout ça dépendra évidemment de la volonté de l'UEFA, mais je le souhaite profondément et si c'était possible, plutôt tôt que tard. Je n'ai accessoirement absolument aucun doute sur la capacité de la France à savoir accueillir les événements de 2023 et de 2024. On en parle beaucoup. Je parle évidemment du périmètre du Stade de France que je connais. Je suis, de ce point de vue-là, extrêmement confiante.
Alexandra Boutelier, la directrice générale du Stade de France, est notre invitée dans Europe 1 Sport. On se retrouve tout de suite.
Europe 1 Sport, Jacques Vendroux, Virginie Fulpin.
Vous n'avez pas idée du nombre d'idées reçues. Que les poissons rouges n'ont pas de mémoire, l'idée reçue que la mer est bleue ou que les Français portent tous des bérets. Non mais franchement, est-ce que j'ai une tête à porter un béret ? Bref, une idée reçue, c'est une idée toute faite.
Nissan va bousculer vos idées reçues sur l'hybride. Pendant les portes ouvertes du 16 au 18 septembre, venez essayer le nouveau Juke hybride. Économie de carburant, design audacieux et conduite dynamique vont vous surprendre.
Nissan.
Économie cycle mixte par rapport à un Juke non hybride. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1 Sport,
Virginie Fulpin.
Et avec Jacques Vendroux, nous accueillons Alexandra Boutelier, la directrice générale du Stade de France. Ce stade, c'est un peu la Tour Eiffel, mais pour le sport, hein, le symbole du sport français. Et on a envie, nous, dans ce studio, mais aussi pour nos auditeurs, bien sûr, que vous nous fassiez rentrer un peu dans les coulisses. Le Stade de France appartient à l'État, Alexandra Boutelier, mais il est géré par un consortium privé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, hein, comment ça marche exactement ?
Oui, bien sûr, c'est un stade qui a été construit en utilisant le mécanisme d'un contrat de concession. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme par lequel l'État, propriétaire de l'infrastructure, a demandé à un groupement d'entreprises privées, en l'occurrence les groupes Bouygues et les groupes Vinci, de concevoir, de financer, de construire, d'exploiter et de maintenir pendant 30 ans, cette infrastructure. Et donc, il a fallu, entre autres choses, construire un modèle économique qui permette à la structure de fonctionner. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Stade de France, ce sont 557 événements qui sont intervenus depuis. C'est le stade qui détient aujourd'hui le record du monde du nombre de grands événements internationaux accueillis. Je crois que à beaucoup de points de vue, c'est une réussite dont nous devrions tous être extrêmement fiers.
Mais à partir de 2025, l'État ne va pas renouveler la concession. Quel est l'avenir du Stade de France ?
Alors, vous en savez plus que moi sur ce que va faire l'État à mi-2025. Je vous rejoins, le contrat de concession initial s'interrompt mi-2025 dans l'état actuel des choses. Ma compréhension de la situation, c'est que l'État va préparer un processus d'appel d'offres dans lequel il va demander à un certain nombre de candidats de lui proposer des solutions en fonction d'un modèle qu'il aura lui-même imaginé. Je ne sais pas s'il proposera un modèle concessif. Je ne sais pas s'il proposera un modèle de régie, je ne sais pas s'il proposera un modèle de vente. Nous verrons bien. Ceci devrait intervenir quelque part au premier trimestre de 2023. Il sera temps à ce moment-là de se poser la question.
Alors, on va parler un peu du passé. Le Stade de France a été inauguré en janvier 1998, un match amical de football. Tout le monde s'en souvient, entre l'équipe de France et l'équipe d'Espagne. Qu'est-ce qui faisait froid ce jour-là ? Quelques mois plus tard, évidemment, la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Comment on entretient le souvenir dans un stade comme celui-là ? Comment on l'entretient ?
L'histoire de ce stade, elle est partout. Il suffit de venir le visiter. Il y a 2,5 millions de personnes qui sont venues le visiter depuis 1998. Et quand vous rentrez dans les entrailles du stade, et notamment évidemment dans les vestiaires, vous avez partout ce qui vous rappelle ce baptême qui n'est à nul autre pareil.
Merci beaucoup Alexandra Boutelier d'avoir été notre invitée dans Europe 1 Sport.
Merci à vous.
Les décideurs du sport, c'est tous les jeudis à 20h avec Jacques Vendroux.